MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Imo.
12h40 mercredi 12 mars, on est toujours au salon MIPIM. Je suis de nouveau accompagné par Sylvain Lévy-Valency. On a encore eu une belle matinée, Sylvain.
Je suis content de savoir l'heure qu'il est.
Ouais, c'est pas mal, juste pour dire que la journée avance, la journée avance bien, elle est intense, on reçoit du beau monde sur notre plateau, je suis content de le dire.
Oui, d'ailleurs, à 13h, je rappelle, ce n'était pas sur la roadmap de notre programme, on va recevoir l'un des principaux organismes de certification.
Tout à fait.
On va avoir certification à 13h. On a parlé beaucoup avec les élus ce matin.
Oui.
On a parlé des difficultés et des injonctions contradictoires auxquelles ils font face.
Exactement.
Bah, c'est vraiment un sacerdoce d'être maire de ville. Entre les contraintes de l'aménagement du territoire, la frugalité foncière, les problématiques du zéro artificialisation net, si on a des promoteurs sur le plateau, ils vont comprendre. Voilà, ce sont des injonctions pas faciles, mais on doit loger les Français.
Exactement.
Et c'est un vrai sujet aujourd'hui de société. Et bâtir n'est pas bétonner. Et il faut redonner de la noblesse aux maires bâtisseurs. Voilà,
écoute, mon cher Sylvain, c'est une excellente transition que tu nous fais là, puisqu'on a sur le plateau avec nous Blaise Heurteux. Bonjour Blaise.
Bonjour à l'équipe.
Alors Blaise, vous êtes vice-président de Stonal et vous êtes également, vous faites partie du consortium des bureaux en France. On en reparlera parce que c'est dans ce cadre qu'on vous fait venir. Et Blaise, vous êtes accompagné de Laure Delivré. Bonjour Laure.
Bonjour.
Bienvenue sur notre plateau. Laure, on ne vous avait pas reçu au CIMI. Vous êtes directrice développement France et transformation d'usage de Bouygues Immobilier.
Non, de Bouygues Construction.
De Bouygues Construction. Et ben voilà, ce sera corrigé. On vous a fait venir pour parler du consortium des bureaux en France. On vous avait reçu au dernier salon CIMI pour une annonce qui avait surpris Sylvain de cette identification des mètres carrés de bureaux qui n'étaient pas occupés et qui pourraient être transformés en logements. On s'était dit qu'on avait révolutionné et qu'on avait solutionné cette crise du logement qu'on connaît tous en ce moment. L'idée aujourd'hui, c'était de vous interroger. Où est-ce qu'on en est ? Il y a eu quelques mois qui se sont passés. Est-ce que vous avez été identifié ? Est-ce que ce travail, il a continué ? Et si vous avez rencontré des villes, comment est-ce que ça a été appréhendé ? Et voilà, est-ce qu'ils ont
été sensibilisés
même, à ce sujet ?
Peut-être même, si je peux me permettre de rappeler les... Parce que quand même, ça claque.
Oui, les chiffres,
non, mais,
évidemment.
Voilà, non, mais
rappeler la démarche,
non, mais
en tout cas.
Ça va intéresser les élus locaux, surtout, de voir le gisement potentiel de quelque part, une forme de peut-être gâchis de mètres carrés qu'on peut intensifier pour loger, encore une fois, les Français.
Blaise, oui. Peut-être rappeler ces chiffres.
Juste avant les chiffres, le consortium des bureaux en France. Hein. Faut savoir que c'est trois acteurs qui sont totalement complémentaires, qui ont décidé de s'associer il y a 2 ans et demi, dans le but de pouvoir rendre ces marchés transparents, le marché du bureau. Et donc, on a Bouygues Construction avec Nexity qui a joint le groupe. On a la FTI avec Action Logement qui a joint le groupe. Et la Place de l'Immobilier qui faisait la pure data. Et avec ces trois acteurs qui sont complémentaires, un privé, un semi-privé public et un acteur de la data, on a pu quantifier le parc de bureaux en France qui n'avait jamais été fait. On parle de 173 millions. Et dans ce parc, on a pu le segmenter, distinguer différents segments qui ont des enjeux différents, des enjeux immobiliers différents.
Le parc, c'est 173 millions.
173 millions. On connaissait 56 millions en Île-de-France, mais en France, c'est 173 millions. Donc ça, c'est un premier point.
De bureau.
Et dans ce 173 millions, vous avez le parc marchand, le parc qu'on connaît, qui est au MIPIM, qui fait de l'investissement, qui fait des grosses opérations. C'est celui-là qui est visible, qui fait 89 millions, donc 51%. C'est que 51%.
L'Île-de-France, hein ?
Non, France. L'Île-de-France, il y a 34 par rapport à 56.
Ah oui, 34, d'accord, ouais. Ok, d'accord.
Et de le reste, 48%, 49%, c'est du parc non marchand. Alors le parc non marchand, c'est quoi ? C'est le parc qui appartient à ses utilisateurs. Là-dedans, vous avez du privé. On connaît la DIE, l'immobilier de l'État, avec 23 millions.
Mais vous ne mettez pas la SNCF, par exemple ?
La SNCF, tout dépend du capital. Comme la SNCF est un capital public, elle est dans le côté public. Donc, il y a d'un côté la DIE avec 23 millions, et puis les collectivités qui sont à 24 millions. Donc, à peu près quasiment équivalent. Non, excusez-moi, qui sont à 13 millions. Et sur le côté parc non marchand privé, donc le parc qui appartient à ses utilisateurs privés, les chefs d'entreprise.
Donc là, je suis patron de PME, j'ai 3000 mètres carrés de bureau, c'est à moi.
Absolument. Et là, on parle de 47 millions.
Okay.
Et ces trois segments ont des enjeux. Ouais, c'est énorme. Mais on ne le voit pas et on ne le suit pas parce qu'il ne fait pas l'objet de commercialisation. Il ne fait pas l'objet de cession de vente. C'est un parc patrimonial qui est là pour le long terme.
Ouais.
Et ça, on ne le voit pas. Et c'est une vraie manne pour les années à venir parce que derrière, décret tertiaire, oui. Changement des usages, oui. Donc, c'est un parc qui va devoir muter. Et ce parc, il va être l'objet, dans, jusqu'en 2030, d'opérations immobilières, dont Link City est friand. Hein, c'est des opérations qu'ils font souvent. Mais ce parc-là, il va accélérer et ça va être une manne pour nos acteurs.
Une question, si je dis une bêtise, vous me rectifiez. Vous savez, les ZAC, les zones d'activité, ouais, ou les parcs d'activité qui parfois sont un peu obsolètes,
ouais,
c'est de la ressource foncière, ça, potentiellement.
Absolument. C'est-à-dire en périphérie, on a ces problèmes de périphérie. On avait la société générale qui avait les Sogeparks, les Europarks et tout ça. Donc oui, c'est des vrais enjeux, bien sûr.
Oui, parce que j'ai visité un parc d'activité dans la banlieue de Clermont-Ferrand,
ouais,
qui était en totale déshérence, qui est même carrément obsolète, qui appartient. Et donc la difficulté du parc d'activité, c'est qu'il est géré un peu comme une sous-forme de copropriété, ouais, puisque chaque bâtiment appartient à l'utilisateur. Mais tu as le cafetier du coin, tu as l'imprimeur qui a acheté son petit immeuble. Et en fait, il y a un travail de reconfiguration. Donc ouais, tout ça, c'est une ressource non anodine, finalement, pour les collectivités locales, pour le logement.
Absolument. Et donc, c'est des vrais sujets d'aménagement du territoire et de pilotage de son activité économique, hein, avec les mêmes problématiques. Hein. On a les périphéries par rapport au centre-ville. Enfin, on retrouve des choses assez similaires, plus ou moins fortes. Hein. En région, il faut savoir que ces problématiques, ouais, sont beaucoup moins fortes qu'en Île-de-France. Donc, si après, on prend le parc marchand, hein, donc nos 51%, en Île-de-France, les 34 millions. Alors, juste petite parenthèse, quand on parle des 5,6 millions de vides, il ne faut pas les ramener à 56 et dire c'est 10%.
C'est ça.
Il faut les ramener à 34. Et là, on parle de 15%. Et ce chiffre, il fait un peu peur. C'est 1 mètre carré sur 7, est vide. Hein.
Ouais.
Et à partir de là, nous, on a identifié au consortium la faisabilité de la transformation. Et c'est là où on a travaillé beaucoup sur les immeubles entiers vides et depuis plus de 2 ans. Et ça, on va en reparler parce qu'il y a eu, depuis le CIMI, il y a eu beaucoup de diffusion, des gens qui ont sorti des stats, des datas. On a senti qu'il y avait une émulation autour de ce sujet.
Oui.
Et pour la première fois, on a l'impression qu'on ne traite pas ce sujet de manière anecdotique, c'est-à-dire, oui, qu'on considère que c'est un phénomène structurel qui peut contribuer à la crise du logement. Et donc derrière, alors pas forcément en grande masse, mais c'est quand même un élément de ressources foncières pour faire du logement.
Pas contribuer à la crise du logement, au contraire.
Renforcer et être
une solide alternative à la crise du logement. Mais je ne m'empêche pas de penser que c'est aussi un relais de croissance formidable pour les promoteurs qui ont été littéralement étranglés, si je veux dire, les derniers, puisque le marché s'est rétréci de moitié. Donc, et ça, on en a parlé d'ailleurs hier avec la ministre du Logement. Donc c'est aussi un relais de croissance intéressant pour les constructeurs, pour les promoteurs. Je donne juste le chiffre du mois de février 2025, publié par Olivier Saleron, le patron de la FFB. Il y a encore 35 000 emplois qui ont été détruits là, au mois de février dans la construction. Ça, vous le saviez déjà. Et c'est une hécatombe. Donc je trouve extrêmement intéressant que le corollaire,
oui,
outre le constat,
oui,
c'est aussi un chantier qui peut occuper pendant quelques dizaines d'années les opérateurs du secteur qui en auraient bien besoin.
Absolument. C'est pour ça qu'on a focusé sur le vide. Et toute la presse, là, depuis le CIMI, a focusé sur le vide. Hein. Tout le monde parle du vide et ce genre de choses, de la vétusté. Mais le corollaire là-dessus, c'est de travailler sur la transformation.
Exactement.
Et comment j'arrive à faire muter ce parc vide et aussi comment j'arrive à séduire en région, notamment, des parcs d'utilisateurs qui ont besoin d'accompagnement, parce que ce n'est pas leur métier de faire de l'immobilier. Eux, c'est des chefs d'entreprise.
Le vide, c'est un peu la question que tout le monde se posait. OK, il y a tant de mètres carrés, de millions de mètres carrés de vide.
Oui.
Effectivement, c'est un point de départ. C'est très bien que ça a été identifié. Maintenant, la question, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces millions de mètres carrés de vide.
C'est la question qu'on va vous poser à vous, Laure.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais compléter aussi ce que tu as dit, Blaise, à savoir la définition, en fait, est très importante parce que de plus en plus d'acteurs de l'immobilier parlent de ces sujets de vide, de chiffres, de parc marchand, non marchand, etc. Et du coup, nous, au sein du consortium, on s'est donné la peine, en fait, de qualifier et de donner des définitions. Quand on parle, par exemple, de vide structurel, on parle d'un immeuble de bureau qui est entièrement vide depuis plus de 2 ans.
Okay.
Ça a son importance parce que des mètres carrés, il y a beaucoup de chiffres qui peuvent circuler. Pour autant, quand on a un immeuble, par exemple, qui fait 1000 mètres carrés, mais qui a un plateau de 200 mètres carrés qui est vide, on ne peut rien en faire. Il est au milieu d'un immeuble de bureau, on ne peut rien en faire.
Oui, c'est très juste.
Voilà. Et donc, quand on veut travailler sur qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on transforme le bâtiment, la définition et du coup la data qui va avec, et c'est bien pour ça que la pertinence des 3 acteurs du consortium a son importance, eh bien, ces définitions-là sont importantes.
Donc le premier travail d'identification, en fait, et de définition,
oui,
c'est peut-être le travail le plus important.
Exactement, et c'est ce qui a été fait depuis la création du consortium. Et ça a été fait avec méthode, avec rigueur et puis ingénierie.
Pourquoi
aussi.
Que trois acteurs ?
Alors, à la base, je rajoute juste un point par rapport à ce que dit Laure, c'est qu'on travaille à l'immeuble. Et ça aussi, il y a peu d'acteurs qui sont capables de travailler à l'immeuble. On travaille sur stade, régional, départemental et tout. À travailler à l'immeuble, ça vous permet de croiser avec plein de dimensions. Et une réflexion qui a été ouverte, c'est la faisabilité des opérations, parce que derrière, j'ai de la mixité territoriale.
Et où est-ce que vous avez récupéré les données ?
Et ça, nous, c'est un historique qu'on a sur la place de l'immobilier depuis des années. Ça fait 20 ans qu'on fait de la data. Et c'est là où on a capitalisé. Nous, cette data, on l'a mobilisée en challengeant avec l'expérience de Link City, en travaillant l'expérience de la FTI pour dire quels sont les critères de faisabilité d'une transformabilité. Et ça, vraiment, ça donne de la crédibilité à la démarche parce que c'est vraiment l'expertise des acteurs au profit de
Alors, le consortium, c'est un collectif, d'accord ?
Alors,
les trois acteurs, pourquoi il n'y aurait
pourquoi trois ?
Est-ce que alors pourquoi trois ? Non, mais peut-être qu'il pourrait.
Est-ce que plus à terme ?
Il pourrait y en avoir plus.
Alors, très clairement, non, ça a démarré à trois parce que les trois personnes s'entendent
Blaise,
bien.
Si je vous pose la question, vous avez compris pourquoi je vous pose cette question. Il y a une multiplicité d'acteurs et que vous prétendez avoir développé une étude académique.
Oui.
Pas de problème, j'assume, puisque je l'ai porté.
Oui.
Donc, il n'y a pas de souci. Je vous le dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, j'y suis. Donc, il n'y a pas de problème. Mais la question mérite d'être posée. Vous êtes d'accord ? On y répond sans ambiguïté ?
Alors, sans aucune ambiguïté. On a démarré parce qu'il y avait trois personnes qui, il y a deux ans et demi, y croyaient.
Oui. Oui.
Non, mais il faut savoir qu'il y a trois
Autrement
ans
Autrement dit, vous avez fait le tour du marché.
On a fait le tour et on a dit, vous allez passer du temps, vous allez devoir vous investir. Vous allez devoir vraiment donner de votre entreprise.
Et puis mettre des moyens.
Les moyens.
Ben oui.
Et ça, très sincèrement, il y a deux ans et demi, quand on parlait de cette problématique, elle n'était pas aussi claire. Elle n'était pas aussi. Les acteurs avaient peut-être l'impression que c'était encore un épiphénomène. Et très sincèrement, pour voir toutes les activités aujourd'hui qui tournent autour de ces sujets, il y a encore des investisseurs ou des opérateurs qui croient que c'est de la conjoncture. Et que ce n'est pas structurel. Donc, je veux dire, l'évangélisation, il y a deux ans et demi, a été beaucoup plus dure.
Je pose une question. Il y a des observatoires créés.
Oui.
Qui existent déjà.
Oui.
Qui sont même bien référencés avec des acteurs publics privés.
Oui.
Réaction ?
Alors, ces observatoires, il y en a certains qui ont travaillé sur le sujet, on est d'accord. Et dans ces observatoires, la seule différence qu'on va avoir avec eux, c'est le fait de nous travailler à l'immeuble qui nous permet de fiabiliser nos données et de travailler de manière beaucoup plus fine qu'une stat globale de 5,6 millions d'immeubles vides en Île-de-France.
Et à l'échelle nationale.
Mais dans l'absolu, ils auraient pu y contribuer.
Alors, ils auraient pu y contribuer, on aurait pu travailler avec eux, il s'avère que ça s'est fait comme ça, Maintenant, la vraie question qui est demain, et ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire que ce travail a permis de faire un noyau dur dans lequel on a de la définition, de la méthodologie, une approche scientifique. Maintenant, l'objectif est d'évangéliser, de partager. Oui,
parce de poursuivre la démarche.
Cette démarche, elle se veut gratuite et altruiste. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'elle irrigue un maximum.
C'est important
parce
ce que vous venez de dire là. Vous avez dit deux mots, altruiste et gratuit.
Absolument. Parce
Autrement dit, Link City, aucun intérêt direct.
Non. Ah non, on n'a pas d'intérêt direct.
Autre FTI, donc foncière de transformation. Je rappelle que c'est une organisation paritaire, Action Logement. Hein, c'est le groupe Action Logement. Donc, ce sont les syndicats patronaux et salariés qui contrôlent Action Logement. Ce n'est pas l'État.
Oui.
Hyper important, même s'ils sont gouvernés par la menace d'un décret qui n'est pas encore signé sur LS, qui en ferait une institution publique. Hein, pour savoir qu'ils collectent, c'est important que vous le sachiez, la participation à l'effort de construction des entreprises. Hein, c'est le principe de FTI. Il y a vous. Mais vous, c'est normal, c'est votre métier. Vous avez été l'inventeur, si je peux me permettre, à l'époque, et ce n'était pas simple, de la collecte de la donnée immobilière. Vous avez clairement répondu à cette question. C'est important parce que c'est bien de ne pas aller dans l'ambiguïté, surtout qu'on on veut promouvoir des éléments académiques qui ont une incidence très puissante et très forte sur les marchés. Vous en contenez, vous êtes d'accord ?
Oui. Je voulais aussi revenir sur la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, à laquelle je n'avais pas encore répondu, sur justement quels sont les intérêts ou pas des deux autres acteurs. Donc moi je vais parler pour ma part Link City et Bouygues Bâtiment, donc toutes deux des filiales de Bouygues Construction. Comme le disait Blaise, en fait on est dans une démarche altruiste et de partage. Hier on organisait ensemble une conférence autour de la transformation d'usage des bâtiments et toujours dans cet état d'esprit là, en fait l'idée n'était pas de faire une conférence Bouygues au Bouygues en présentant que des projets Bouygues, mais bien de partager et d'essayer d'agir sur cet effet de masse.
on en a beaucoup parlé pendant cette conférence, à savoir que si on n'est pas plusieurs à agir ensemble, chacun avec nos domaines de compétences et en complémentarité, la transformation de ces bâtiments qui ont été identifiés ne pourra pas être opérée. Or, on a évidemment de nombreux freins politiques, techniques, juridiques, etc. mais il faut qu'on soit plusieurs, chacun dans un domaine de compétence, je le répète, pour pouvoir arriver à aboutir à cette transformation. Et donc, hier, on en parlait avec l'aménageur donc de Paris La Défense, Pierre-Yves Guis. Il y avait aussi Swiss Life, Olivier Rochefort, et puis un architecte, Jamel Clouche, qui est assez engagé sur les domaines de la transformation. Et donc, la modératrice de cette conférence était la directrice générale de la Fondation by BCE, qui vient de lancer le cercle de transformation d'Hibro au logement. Pourquoi je raconte tout ça? C'est parce qu'en fait, on est dans le même état d'esprit au sein du consortium sur le fait de partager les différentes initiatives. Il ne faut pas qu'on soit en concurrence, mais bien en complémentarité, parce qu'il y a tellement de difficultés qui sont devant nous que... C'est facile de faire échouer les projets. En gros, j'ai une donnée en tête, mais qui est personnelle de par mon expérience, mais il y a à peu près un projet sur 30 qui arrive à aboutir en termes de transformation des immeubles qui ont été identifiés et qui sont complètement vides. Ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui n'arriveront pas à être transformés, refabriquer la ville sur la ville, qui est quand même notre objectif commun. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est quand même bien dans un objectif, non pas juste d'avoir des chiffres qu'on peut remettre en cause si on a envie, mais une fois qu'on a ces chiffres, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, l'objectif, il est quand même il est social, il est sociétal, dans le sens où on veut faire évoluer la société, la ville, l'urbanité. Comment est-ce qu'on transforme nos villes? C'est en arrivant à transformer le bâtiment et réfléchir la promotion, l'architecture, l'urbanisme d'une manière collective et convergente.
Et donc maintenant que vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière, ça y est, c'est fait. Tout le monde a ce chiffre en tête. Tout le monde a ces mètres carrés de bureaux qui sont vides.
Quelle est la prochaine étape?
Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? On passe, ça y est, on a passé la première. On s'apprête à passer en seconde.
On voit déjà que l'État s'implique. On a vu les interventions du ministre, on a vu le préfet qui a aussi donné une dynamique autour du 92. Donc on voit que déjà, effectivement, il y a cette volonté politique et c'est important parce qu'on a une grosse partie de ces immeubles vides qui sont dans des zones. Et donc ce n'est pas l'investisseur tout seul qui arrivera à restructurer l'immeuble, mais c'est la dynamique territoriale.
Exactement.
Donc on a besoin des institutions politiques qui poussent.
Effectivement, la ministre du Logement l'a cité hier sur notre plateau avec toi Sylvain, et l'a cité aussi lors de la conférence de presse du MIPI. Ouais. Elle a parlé de cette transformation des mètres carrés de bureaux vides en logement. Donc ça y est, niveau politique, c'est identifié.
Le deuxième point, c'est une logique industrielle dans laquelle effectivement les opérateurs doivent se mettre en mode de bataille pour traiter de manière industrielle ces enjeux.
Eh oui.
Parce que derrière,
ça coûte. Non, mais c'est surtout que ça coûte beaucoup plus cher que de démolir et de reconstruire.
Absolument.
Pour être très clair.
Donc ça, c'est privé et c'est des initiatives locales. Et ça, ils sont partis parce que derrière, et on voit bien les initiatives qui sont prises chez les promoteurs et les constructeurs dans la logique de standardiser les processus et les offres. On a une troisième chose qui est le légal et le juridique. Ouais. Là-dessus, c'est des contraintes. Donc là-dessus, il faut que aussi on arrive à, entre les mairies, l'État, les régions et les départements, on arrive à faire sauter. Alors, il y a le député qui...
La loi d'Aubier.
La loi d'Aubier qui doit bientôt passer et qui aidera là-dessus. Et puis, on a cette gouvernance. On a une vraie logique de gouvernance derrière qu'il faut structurer avec des foncières de diffusance, avec un certain nombre de logiques où il y a certains immeubles qui sont détruits au profit d'autres. Et quelque part, il y a un actionnariat partagé pour derrière essayer de faire muter ces zones. Donc, on a tous ces ensembles-là qui doivent pousser. Nous, notre rôle au niveau du consortium, c'est de pousser les idées et de quantifier,
évangéliser,
de modéliser. Parce que très sincèrement, on a encore du boulot pour savoir sur la faisabilité. On a encore du boulot en cours. On travaille sur des notions de quel est le territoire autour d'un immeuble pour savoir s'il est facilement transformable ou pas. Il est dans une zone qui est capable de recevoir. On travaille sur ces schémas-là pour continuer à éclaircir. Mais il faut qu'on mobilise le secteur, qu'on continue. Et c'est là où on est en train de réfléchir à l'ouverture de ces trois acteurs à un format un peu plus large dans le but d'évangéliser.
On pourrait imaginer un collectif?
On serait ravis d'imaginer.
10, 15, 20, 25 acteurs?
Ça répond complètement à notre raison d'être, qui est de dire comment on apporte la connaissance et la quantification dans le but de transformer au plus vite. Tout ça, c'est transformer au plus vite. On peut croire que le marché s'autorégulera dans le temps.
Vous êtes soutenu politiquement?
On nous écoute.
D'accord.
Pour l'instant, on nous écoute.
D'accord. Parce que l'idée, c'est quand même de passer à l'acte.
Ouais.
Hein, c'est passer d'un think tank à un do tank. C'est-à-dire que finalement, on a trois équations. J'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs là-dessus. Et on a un modèle économique qui est différent.
Ouais.
Bien évidemment, le prix du foncier banlieue parisienne n'est pas du tout le même que celui de Dreux, Roubaix ou Châteauroux, bien évidemment. Mais c'est le même bâtiment. Donc on a le même coût de construction, on a les mêmes problématiques de coût de manœuvre, hein, c'est les facteurs clés de la construction, sauf qu'on a des prix de sortie qui ne sont pas du tout les mêmes. Et je ne connais pas aujourd'hui beaucoup d'industriels qui travailleraient avec des marges négatives et sans profitabilité. Donc moi, ma question, c'est comment on peut envisager, un, la possibilité industrielle d'essayer de faire une dépose des matériaux, de travailler la reconfiguration de l'immeuble sans le démolir, donc une déconstruction peut-être et pas une démolition, et parvenir à un modèle économique qui permet de sortir du logement, oui, mais surtout du logement abordable. Laure ?
Alors, sur ce sujet qui est hyper important, on est en train de parler de la valeur, en fait. Et la valeur de l'actif, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous en avez eu connaissance, mais vous parliez de soutien politique. En fait, André Hiché avait été...
Bandit territoire.
Exactement. Et il a été missionné par le gouvernement il y a à peine un an maintenant. C'était au printemps 2024 avec une commission pour justement essayer de comprendre les freins à cette transformation des bâtiments existants. Et donc, pendant 3 mois, il a étudié avec évidemment plein d'acteurs. Sa conclusion, enfin, une de ses conclusions principales, c'est sans signe fort du marché, on n'y arrivera pas.
Ouais.
Donc, évidemment, je ne sais pas. Je n'ai pas la solution sur...
C'est pas un signe fort.
Un signe fort du marché sur accepter, en fait, de décoter son actif. Pour pouvoir arriver à le transformer. Parce que sinon, financièrement, techniquement, les projets n'aboutiront pas.
Ok, je vais vous dire une chose.
Ou alors avoir des coûts de transformation.
Il vaut mieux prendre peu.
Le coût de transformation, en
peu
fait.
Peu de beaucoup que beaucoup de rien du tout.
Ah ben...
C'est-à-dire que ce que vous dites est clé. C'est-à-dire qu'il faut accepter de faire rétracter une partie de ses valeurs. Et d'ailleurs, notamment, je pense aux property, aux assets.
Exactement.
Qui accepteront l'augure d'accepter effectivement cette décote. Ça ne va pas être facile.
Non, ça ne va pas être facile. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on est quand même en train de changer un peu les mentalités globalement dans le monde de l'immobilier depuis la crise qu'on traverse maintenant depuis quelques mois, voire années. Et du coup, il y a des nouveaux critères qui commencent à arriver, et notamment le critère de la valeur verte, les critères extra-financiers. Et de plus en plus d'investisseurs, d'assets, mettent le critère de la valeur verte, enfin font monter ce critère de la valeur verte, à savoir en quoi mon immeuble et mon actif peut avoir une certaine valeur au-delà de sa valeur financière. Et c'est là où c'est important, et c'est là où il faut arriver à faire bouger aussi les lignes là-dessus. Alors ça va pas être simple, hein, parce que de dire qu'il n'y a plus de valeur financière à un actif, c'est
non,
pas...
Non mais qui revient, non pas...
Dire qu'elle est complémentaire.
C'est hyper
exactement,
important.
C'est hyper et c'est comme ça qu'on peut faire basculer en fait les mentalités pour arriver à faire aboutir le sujet du départ, qui est comment est-ce qu'on fait effectivement transformer et muter l'usage d'un bâtiment en imaginant des travaux de construction, de réhabilitation plutôt, et voire de démolition partielle, mais de surélévation, de densification.
C'est aussi une façon de reconquérir de la valeur.
Exactement.
Qui dit ratio extra-financier dans le cadre notamment des normes RSE, ESG, mais aussi des règlements taxonomiques à l'européenne, au niveau européen, c'est aussi pouvoir faire appel aussi à de l'épargne publique. Je pense notamment à certains des CPI. Il fait que sur des projets de cette nature, la finance dite en verte devient presque une règle absolue. Donc finalement, le discours qu'on peut tenir à ces industriels, à ces opérateurs, c'est au lieu de perdre 100% de vos valeurs, essayer de la reconquérir avec un autre bien, même si dans ce laps de temps, vous devez abandonner dans vos chiffres, hein, dans votre ligne d'assets, des valeurs qui sont négatives.
Donc c'est du long terme.
C'est une façon de reconquérir, mais c'est aussi une façon. Et moi, je pense, moi, je serais constructeur comme vous. Je pense que c'est un bon argument d'accompagner les utilisateurs, mais aussi les investisseurs, de leur dire vous allez reconquérir une vraie valeur parce que votre truc ne vaut pas rien.
Et c'est exactement ça.
Mais il a une autre destination, il a une autre vie, et on va lui redonner vie différemment. Mais il faut accepter, parce qu'en fait, cette acceptation, parce que vous avez raison, dans l'acceptation, c'est la réduction du prix de sortie. Il faut être très clair. Si on garde les mêmes prix, on n'arrivera jamais à sortir des prix de logement abordables.
Et donc, nous, on est à la fois promoteurs et constructeurs, hein, avec Link City et Bouygues Bâtiments. On vient de créer une nouvelle offre qui s'appelle Cyclique, et la phrase qui vient après le nom de l'offre, c'est revalorisons, si je n'arrive pas à la dire, c'est compliqué, revalorisons votre actif. Parce qu'à un moment donné, votre actif vide, qui est pour lequel vous n'avez plus aucune recette locative, ben, et vous allez perdre de l'argent. Vous allez arriver devant le décret tertiaire. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Ouais. Donc, redonnons de la valeur, peut-être en changeant l'usage ou pas, mais c'est comme ça qu'on arrivera petit à petit, après un laps de temps certain de l'usage, de l'imagination de l'usage, la programmation, les travaux, etc., ils recréeront de la valeur pour le bien des foncières et des propriétaires.
Il y a un autre point, à mon avis, qui est intégré aussi, donc à la valeur verte et la valeur d'usage. On a un autre point aussi qui est la stratégie de l'investisseur. C'est-à-dire qu'on a aussi le fait que certains propriétaires peuvent vivre avec un immeuble vide, et puis il y en a certains qui ne peuvent pas. Et donc, quelque part, là aussi, dans la façon d'accompagner l'évolution, il faut arriver à convaincre ces investisseurs qui ont un immeuble ou quelques immeubles vides dans un gros, gros portefeuille, qu'ils ont tout intérêt à transformer. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse faire le marché, si ça se trouve, effectivement, ouais, ces immeubles resteront vides.
Mais je vais vous donner juste un axe, et notamment les principales SCPI, notamment celles qui arrivent quasiment au terme de leur période, qui ont des sujets, de vrais, vrais sujets, sur la destination, finalement, ou la mixité de l'usage, ou l'intensité de l'usage. Parce que je ne peux pas m'empêcher, quand vous parlez de ce gâchis, finalement, au mètre carré, ou du mètre carré obsolète, de la non-utilisation aussi du mètre carré dans les entreprises versus le télétravail, etc. Quand on voit qu'on a des chiffres d'utilisation maximum de 30 à 35%, des fois moins, ouais, et qu'on a aujourd'hui 900 000 demandes de logement d'urgence en France, qu'on a 2,5 millions de foyers qui sont inscrits sur des listes de logements sociaux depuis plus de 5 ans et qu'on a 4,5 millions de personnes mal logées, à un moment donné, le sujet ne peut être que politique, on est d'accord là-dessus.
Il y a en tout cas une vraie utilisation du mètre carré à repenser, c'est clair, c'est clair, et à revaloriser.
On va refaire un dossier. Moi, je propose, si vous êtes d'accord, on va refaire un dossier beaucoup plus long, parce que là, on est en période d'événement. On va le faire à Paris dans notre studio.
On va vous revoir
on va demander
sur cette évolution du consortium.
Et on demandera à la ministre du Logement de se joindre à la discussion, ou la présidente du Conseil national de l'Habitat, pour justement travailler sur cette question. C'est une excellente initiative. Bravo pour ce que vous avez fait.
Merci beaucoup, Blaise Herceux, d'être revenu nous voir. Vous êtes vice-président de Stonal pour le bureau de Consortium en France. Merci beaucoup d'être revenu. Et Laure Délivré, directrice développement France, transformation d'usage de Bouygues Construction. Attention.
Et, voilà. Et à suivre, on va recevoir... vous connaissez les certificateurs. Vous savez, il y a 4 sociétés de certification. On va parler justement des certifications qui étaient un peu l'alpha et l'oméga, finalement, des bonnes pratiques immobilières. D'ailleurs, je vous encourage à les rencontrer. On va recevoir sa directrice générale et son équipe sur le plateau, ses prestataires certification, et c'est Karine Thomas qui va prendre la succession sur le plateau. C'est tout de suite dans quelques minutes à peine.
Merci à vous.
Merci.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.